Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
En France, il est des drames auxquels l'on finit par presque s'habituer tant ils sont ancrés. La situation des prisons françaises, par exemple, les plus de 100 000 personnes vivant à la rue, ou le creusement des inégalités en matière d'éducation. Et en matière d'éducation, il en est un dont on ne parle pas tant que cela ou pas assez, le décrochage scolaire. Près de 100 000 jeunes chaque année quittent le système scolaire, une hémorragie invisible que les pouvoirs publics tentent d'enrayer. Pour cela, sont nés notamment, il y a plus de 20 ans maintenant, des écoles de la seconde chance. Coup de projecteur ce matin sur ces écoles, discrètes mais redoutablement efficaces. Que sont les écoles de la seconde chance? Point d'interrogation, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi matin. On part à la découverte de cette réalité dont certains ont peut-être entendu parler dans la presse autour du plateau. Pour nous en parler, Marc Martin, vous êtes directeur de l'école de la seconde chance de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Sont avec nous deux élèves. Romain, vous avez 17 ans et vous êtes élève donc dans cette école à Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Parlez bien près du micro. Et avec nous aussi Mathilde, vous avez également 17 ans, même si vous allez sur vos 18, je crois. Bref, vous avez à peu près le même âge et vous êtes aussi élève de cette école. Bonjour.
Bonjour.
Alors, très heureux de faire cette émission pour découvrir ça. C'est vrai que l'école de la seconde chance, quand on est journaliste, on en a entendu parler dans la presse, mais on ne connaît pas toujours le détail. J'ai pas trouvé tant de vidéos que ça qui montraient un peu dans le détail ce qui se vit. Bon, il y a quelques reportages sur France Télévisions et autres. Mais avec vous, on va partir à la découverte de ces écoles. Avant ça, c'est ce que je disais en introduction, comment ne pas parler du décrochage scolaire? Je citais ce chiffre, c'est environ 100 000 jeunes, donc entre 16 et 25 ans, si je ne me trompe pas, Marc Martin, qui décrochent scolairement. Alors on dit qu'en 2019, c'était descendu à moins 8,2, mais c'est toujours autour de 100 000 à peu près, c'est ça?
Oui, écoutez, aujourd'hui nous accueillons des jeunes gens et des jeunes femmes qui n'étaient pas nés lorsqu'on a démarré en 2004, donc c'est que la situation ne s'est pas complètement améliorée. Donc oui, on est sur il y a une légère baisse qui s'observe depuis plusieurs années, mais le volume est quand même impressionnant.
Alors qui sont ces jeunes? Avant qu'on voit peut-être un peu plus ce que les pouvoirs publics essayent de faire, et vous, d'où viennent-ils? Ont-ils des profils particuliers, Marc Martin?
Alors, ils sont globalement, sur les publics que nous accueillons, la moyenne d'âge. Alors, nous accueillons un public de 16 à 30 ans. Tranche d'âge assez large et qui permet d'avoir une grande diversité de profils. Des publics qui ont en moyenne 22 ans, à peu près autant de garçons que de filles, qui viennent pour un bon tiers des quartiers populaires, relevant de la politique de la ville, qui ont des quartiers sensibles, qui sont aussi majoritairement issus de familles populaires. Et pour ceux qui sont vraiment en échec scolaire, c'est souvent des publics pour lesquels il y a eu une prise en charge complètement inadaptée durant le temps scolaire. Sauf à abaisser la majorité légale à 5 ans, on ne peut pas les tenir pour responsables de l'échec qu'ils ont vécu.
Alors vous me disiez aussi que souvent c'était des profils 10, c'est ça, en préparant l'émission?
On a des profils dyslexiques, dyscalculiques, qui n'ont pas été pris en charge correctement. On a constaté également au sein de l'école qu'on avait une surreprésentation de personnes qui ont un profil d'apprentissage dit kinesthésique.
Ah oui, c'est ça. Oui.
Donc qui ont besoin d'être en mouvement pour apprendre, de construire un lien avec l'enseignant. Et donc des jeunes pour qui c'est compliqué d'être dans une classe assis, une classe de 30, on pas bouger. Donc ils sont souvent relégués en fond de classe, et s'ils n'ont pas un environnement qui va permettre de les étayer, de leur permettre de compenser des prises en charge qui ne sont pas tout à fait assurées par le système scolaire, ben ils sont vite positionnés en dernier de la classe et ils vont se réassurer en cours de récréation.
Donc le décrochage scolaire, c'est grave. Avant qu'on leur donne un petit peu la parole pour, au long de cette émission, donc apprendre à découvrir ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent dans les écoles de la seconde chance. Alors vous deux, vous êtes actuellement élèves, donc vous n'avez pas forcément de recul sur votre expérience. Mais vous en accueillez combien depuis 2004 et quel est un peu le succès de ces écoles?
Alors, l'école de Toulouse, c'est 18 élèves tous les mois, à peu près 200 élèves par an qui nous rejoignent.
Donc on peut prendre ça en cours de route, c'est ça ?
Alors, on fonctionne sur un principe d'entrée et de sortie permanente. Tous les mois, un groupe intègre, des entrées cadencées tous les mois, puis les sorties au fil de l'eau, chaque fois qu'un jeune soit abandonne parce que c'était pas lui, c'était pas nous, on s'est pas rencontré, soit parce qu'il trouve une solution. Il intègre une formation qualifiante pour apprendre un métier et où il va trouver un emploi, un contrat d'alternance, un contrat d'emploi direct. Et donc, il nous quitte à ce moment-là.
Donc, on y reviendra. Donc, en gros, il y en a à peu près...
Il y en a à peu près 4 000...
20 par mois, c'est ça ?
20 par mois à Toulouse, environ 4 à 5 000 en France, au niveau national. Et l'objectif pour nous, c'est de travailler avec eux sur un projet d'insertion professionnelle.
Alors ça, on y viendra, mais sur les résultats, il y en a quoi ? 60%
À Toulouse, on est à peu près bon an mal an, autour de deux tiers de nos élèves accèdent à une formation qualifiante ou un retour en formation initiale ou un accès à un emploi.
Alors, des écoles de la seconde chance, donc il y en a aujourd'hui, si je ne me trompe pas, à peu près 150, c'est ça ?
Oui, à peu près
150 écoles
en France. Ouais.
C'est à peu près 15 000 élèves donc, qui passent pas chaque année dans ces écoles, donc qui ont entre 16 et 25 ans. Alors, on va commencer avec vous, Romain. Donc vous avez décroché scolairement,
oui.
Comme on dit. Ça vous est arrivé quand et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors moi pour raconter brièvement mon parcours de vie, j'étais au collège quand j'ai décroché. J'étais en début de classe de 3e et ça faisait déjà quelques années que j'étais assez lassé du système scolaire classique entre guillemets. J'avais du mal à supporter l'autorité des professeurs, c'était surtout ça qui me posait problème. J'avais beaucoup de mal donc avec ce système scolaire et arrivé en début de classe de 3e, j'ai fait une sorte de burn-out, enfin je sais pas si je peux employer ce terme là, mais j'en pouvais plus et j'ai commencé à décrocher progressivement en n'allant plus en cours, n'étant plus présent en cours et au final au bout de quelques mois je ne suis plus du tout allé à l'école et donc c'est à partir de ce moment là que j'ai complètement arrêté ma scolarité dans un premier temps.
Ça a duré combien de temps cet arrêt du coup ? Parce que si vous avez décroché en 3e et que vous avez aujourd'hui 17 ans, il y a quoi ? 2 ans entre les deux, c'est ça ?
Oui, c'est à peu près ça. Pendant 2 ans, il y a eu une période de flottement dans ma vie pendant laquelle j'ai essayé de trouver des opportunités pour rebondir. Donc je me suis renseigné sur internet notamment pour trouver des écoles ou des formations pour me permettre de rebondir vu que j'avais pas envie d'en rester là. Forcément, il me fallait trouver quelque chose. Et au final, ce sont des amis à moi qui connaissaient donc ma situation et qui m'ont parlé de l'école de la deuxième chance de Toulouse. Et donc, je me suis renseigné.
Alors, on y reviendra hein, ça, sur ce que vous avez vécu. Juste, le fond en fait, de la difficulté, quelle était-elle ? Parce que beaucoup d'élèves ont du mal à supporter l'autorité des enseignants ou des professeurs. Enfin, l'autorité, c'est compliqué pour tout le monde. Vous, c'est quoi, en fait ? Qu'est-ce qui clochait avec un petit peu de recul à l'école
Concrètement, me retrouver dans une classe avec 20, 30 élèves, surtout 30 élèves, au quotidien, derrière un bureau, en devant étudier des cours, apprendre des leçons plus ou moins par cœur, c'était pas forcément un système d'enseignement qui me correspondait. Comme a eu l'occasion de le dire monsieur le directeur il y a quelques instants, je rentrais dans ce profil d'élèves qui ont besoin de faire au lieu de simplement écouter et rester derrière un bureau, vous voyez. Ça a été une des principales problématiques qui ont fait que j'ai eu du mal avec le système scolaire classique et qui m'ont fait par la suite décrocher.
Mathilde, est-ce que vous pouvez nous raconter aussi la manière dont vous avez décroché ? Ça s'est passé quand ? Est-ce que c'était une difficulté que vous aviez depuis longtemps et puis qui s'est accélérée ?
Moi, j'ai décroché en 5e par le harcèlement scolaire.
C'est-à-dire, si vous pouvez nous dire, le harcèlement scolaire, vous avez vécu quoi ?
C'est-à-dire qu'il y avait une pression des autres jeunes. Il y avait une pression aussi des professeurs, parce que je n'avais, un peu comme Romain, je n'avais pas vraiment le profil. Écouter, apprendre, tout en par cœur, c'était pas trop mon truc. Mais donc je pense que j'étais juste pas faite pour ce type de scolarité.
Harcèlement scolaire, donc c'est-à-dire qu'il y avait d'autres élèves qui vous pourrissaient la vie, pour être un petit peu trivial ?
Oui, on peut dire ça.
D'accord, du coup, c'est la principale raison pour laquelle vous avez du coup quoi, arrêté d'aller au collège ?
Je pense que c'était un tout. Il y avait aussi le fait que j'avais aussi des problématiques peut-être qui étaient extérieures. Mais ouais, je pense que ça fait un tout, c'est-à-dire que j'arrivais dans une période où c'était le début de l'adolescence. On comprend pas trop ce qui se passe. Le système scolaire est quand même assez dur. On doit rester assis, on doit écouter ce qu'on nous dit. Et je trouve qu'en fait, on nous pousse pas à devenir des personnes propres à nous-mêmes.
Ouais.
On nous pousse à rester seulement dans un groupe. Et en fait, on est vu comme tous les autres jeunes d'une classe, pas comme nous-mêmes. Et je pense que c'est ça qui a été mon gros problème, en fait.
D'accord, donc une période de l'adolescence où vous aviez besoin particulièrement en fait, d'attention, de vous trouver
j'avais
vous-même.
J'avais besoin, ouais, de me comprendre, ouais.
Et là, vous aviez l'impression d'être pris dans la machine à laver et puis dans des
c'est
systèmes
ça.
Un peu violents de groupe. Alors, vous avez décroché scolairement en 5e, c'est ça?
C'est ça.
Et donc, vous avez trouvé l'école de la seconde chance, donc aux environs de peut-être de 16 ans et quelques. Oui. Entre les deux, vous avez fait quoi?
Bah, entre les deux, du coup, on a essayé de me trouver désespérément une place dans autre chose. Donc, j'ai fait de la psychiatrie au début. De l'hôpital de jour aussi, beaucoup. En fait, on essayait de me coller un peu une maladie, en fin de compte, parce qu'on ne peut pas juste décrocher sans raison, sans avoir des problèmes. Et je pense que c'est ça, en fait, le gros. Ouais.
Mais excusez-moi, parce que quand vous m'aviez dit ça en préparant l'émission, entre décrochage scolaire et psychiatrie, ça veut dire que vous alliez vraiment mal? Vous étiez déprimé ou...
Bah, en fait, au
on
ne
vous met pas
je...
en psychiatrie quand même quand vous décrochez scolairement, j'espère,
en fait,
en français.
Au début, j'ai commencé en hôpital de jour parce que, justement, j'avais décroché et qu'on ne savait pas où me mettre. Et donc... comme j'avais un mal-être en fait qui n'était pas lu de l'école, on se disait que ça venait de moi automatiquement en fait. Donc ouais, on m'a mis au début en hôpital de jour et après en fait quand on voyait qu'il n'y avait pas de solution, bah, j'ai été mise en psychiatrie parce que ça allait de moins en moins bien et même moi j'allais de moins en moins bien en fin de compte parce qu'il n'y avait pas de solution et je me disais que j'avais un problème du coup.
C'est un parcours voilà bien douloureux que vous nous décrivez là. Avant qu'on fasse une première pause, Marc Martin, on peut introduire les écoles de la seconde chance peut-être dans une stratégie, on va dire, européenne et française de lutte contre le décrochage scolaire. J'ai vu qu'il y avait un plan stratégie Europe 2020 sur le sujet, que pour l'éducation nationale, aujourd'hui, il y avait un droit au retour en formation pour tous les jeunes sortis du système éducatif et l'obligation de formation pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans. Bref, les pouvoirs publics mettent un petit peu le paquet. J'ai vu aussi que la loi de 2019 pour une école de la confiance concrétisait les engagements du gouvernement à lutter contre le décrochage scolaire. Il y a une vraie volonté politique, vous avez l'impression, sur ce sujet ?
Oui, je pense. Il y a un vrai coût humain pour ceux qui vivent l'échec scolaire. Il y a un coût social, ça coûte cher, et un coût économique. C'est aussi autant de compétences qui ne sont pas utilisées par les entreprises, par les organisations de travail. Donc oui, il y a, bon, ceci dit, il y a un vrai travail aussi à repenser à quoi sert l'éducation nationale. Si l'éducation nationale sert à être une machine à trier et à produire des élites, c'est un peu le fait aujourd'hui. On y est aujourd'hui. En revanche, il faudrait peut-être penser de quelle manière l'éducation nationale peut être un lieu d'épanouissement pour les enfants.
Eh bien, on va en parler, puisque c'est ce que vous essayez de vivre, semble-t-il, dans les écoles de la seconde chance, et puis c'est ce qui a l'air de vous tenir à cœur. On va faire une première pause musicale, et puis on va vous retrouver pour essayer de détailler ce que vous vivez dans ces écoles, et vous, Romain et Mathilde, ce que vous y avez trouvé.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Que sont les écoles de la deuxième chance, point d'interrogation, et non pas seconde chance? Vous allez nous expliquer pourquoi tout de suite, monsieur Martin, autour du plateau, point d'interrogation. Que sont les écoles de la deuxième chance, point d'interrogation? Avec nous ce matin, pour ceux qui nous rejoindraient, Marc Martin, qui est directeur de l'école de la deuxième chance à Toulouse, Romain et Mathilde, qui sont élèves qui ont 17 ans et qui vont nous dévoiler un petit peu ce qu'ils y vivent. Deuxième chance, ça veut dire... Enfin, pourquoi? Vous me disiez, parce que c'est une seconde, ça veut dire qu'il n'y a pas une troisième?
Voilà, c'est ça. Donc, il y a toujours des chances qui peuvent succéder aux chances.
Alors, j'ai vu que c'était d'actualité d'une certaine manière, en tapant sur un moteur de recherche, dont je ne citerai pas le nom, école de la deuxième chance. Donc, j'ai vu que Valérie Pécresse, donc candidate pour la région Île-de-France, dans une interview au JDD, c'était dimanche dernier, avait dit qu'elle voulait faire du décrochage scolaire l'un des piliers de son projet éducatif, et elle cite donc les écoles de la deuxième chance en tête. Première école, c'est à Marseille, en 1998. Comment c'est né, Marc Martin, cette aventure des écoles? Il y a une certaine Edith Cresson qui est derrière ça, non?
Voilà, au commencement était le verbe, et pour nous, le verbe, c'est un livre blanc de la Commission européenne qui date de 1995, qui s'appelait « Enseigner et apprendre vers la société cognitive » et qui posait les bases de tout ce qui allait être la formation tout au long de la vie et qui faisait le constat que chaque année, vous avez cité les chiffres tout à l'heure, il y a un nombre considérable de jeunes qui sortent du système scolaire sans valider de diplôme ni de qualification et qu'il était nécessaire de pouvoir leur proposer un espace de remédiation, une deuxième chance pour raccrocher avec un projet professionnel et un projet de vie.
Donc c'est Edith Cresson qui a eu cette idée, voilà, dans ce rapport de créer ces écoles de, voilà, la deuxième chance.
Il y a eu un premier, voilà, Edith Cresson, et ensuite plusieurs écoles sont nées en Europe, dont une en France à Marseille, et à Toulouse le projet a été porté par la région Midi-Pyrénées. Et donc la région Occitanie aujourd'hui nous soutient. Il y a 11 écoles sur l'ensemble du réseau Occitanie et une vraie politique de service public de la deuxième chance qui est mise en place par la présidente de région actuelle.
Alors comment ça marche? Donc un élève vient toquer à votre porte, qu'est-ce que vous leur proposez? Quelle école, à quoi ressemble cette école, Marc Martin?
Il faudrait leur demander ce que je leur ai proposé.
Alors, on en parlera après, chacun son tour.
Le principe, c'est de proposer aux élèves un espace où ils vont pouvoir à la fois travailler un projet professionnel. On est à un dispositif d'insertion professionnelle, même si dans le cas de Romain et de Mathilde, on est sur une reprise d'études qui se dessine pour eux.
Et c'est toujours dans une perspective d'insertion professionnelle. C'est comme ça qu'on l'envisage, même quand ils arrivent à 16 ans.
C'est une insertion globale, c'est à la fois professionnelle et sociale. On travaille sur un projet de métier avec cette idée qu'il n'y a pas de mauvais projet, hormis un projet qu'on leur imposerait de l'extérieur. C'est eux qui décident, c'est eux qui sont maîtres de leur avenir. Et nous, on va créer les conditions pour qu'ils puissent choisir un métier qui leur plaise. On ne fait rien sans passion et sans plaisir. J'avais jamais entendu un prix Nobel dit j'ai fait ça parce qu'on m'a forcé, donc eux c'est pareil, il faut leur donner l'occasion de choisir. Et pour beaucoup de jeunes, un échec scolaire c'est aussi parce qu'ils ont été orientés en dépit de leur désir, sans leur laisser la liberté de choisir. Et puis on va leur proposer aussi un accompagnement sur ce qu'on appelle proprement la remise à niveau, en tout cas sur les savoirs fondamentaux, en lien avec leur projet, donner du sens aux apprentissages là où ils n'en ont pas eu. On ne refait pas le programme scolaire, mais on essaie de leur apprendre à apprendre, développer des stratégies d'apprentissage et prendre du plaisir à apprendre. Et
puis enfin, on commence par beaucoup les écouter, en fait, peut-être, au début, c'est ça?
Pour savoir ce dont ils ont besoin, il faut les écouter. Et puis enfin, on organise aussi tout un suivi personnalisé. Ils sont à un âge où ils sont en quête d'autonomie, d'autonomie par rapport au logement, pour les plus âgés. C'est pas facile de se jeter dans la vie, donc on est là aussi pour les aider, résoudre les difficultés personnelles, sociales qu'ils peuvent avoir, tout ce qui peut être un frein à leur parcours au sein de l'école, donc un accompagnement personnalisé et individualisé.
Alors juste avant de vous donner la parole, c'est promis, donc il y a tout un accompagnement personnel, tout un travail sur l'acquisition des savoirs, mais autrement peut-être, ou de manière plus personnalisée. Et puis il y a le volet professionnel, c'est-à-dire tous font des stages.
Alors, volet professionnel,
et de l'insertion professionnelle.
Voilà, il y a des stages.
On va tremper dans la vie.
On va dans la vie active, on fait des stages en entreprise pour découvrir un métier. Avant de choisir un métier, il faut le tester. Pour acquérir des compétences, pour consolider un projet, pour le valider, pour aussi se faire un réseau professionnel.
Alors, puisque vous trépignez, Romain, on va griller la politesse à nouveau à Mathilde. Je vois que vous apprenez pas les bonnes manières. Non, je plaisante. Ma question, avant de vous laisser réagir, quels sont les premiers souvenirs que vous avez de cette école de la deuxième chance, quand vous avez poussé la porte, la manière dont vous avez été accueilli peut-être ?
Ben, justement, c'est ce sur quoi je voulais revenir. Une des choses qui m'a le plus marqué à mon arrivée dans l'école, c'est que contrairement au lycée ou au collège classique, à l'école de la deuxième chance, on nous écoute beaucoup plus et on est beaucoup plus écouté. Il y a une formation qui est individuelle et on nous laisse beaucoup plus la parole. On essaie de nous comprendre aussi. Ce sont des choses qui malheureusement aujourd'hui dans le système scolaire classique, lycée, collège, ne sont pas présentes.
Vous avez l'impression d'être noyé dans la masse quand vous
Exactement,
êtes...
c'est vraiment ça pour le coup. Quand on est dans un... Bah, moi quand j'étais au collège, c'était incroyable, on était 30 par classe, la professeure elle était toute seule au milieu de la classe, et elle savait pas où mettre la tête, c'est vraiment un peu le bazar, quoi. Alors qu'à l'école de la deuxième chance, c'est tout l'inverse, justement. Et c'est ce qui m'a le plus marqué à mon arrivée.
Mathilde, même chose. Quand vous êtes arrivée au début, on va dire les premières semaines, qu'est-ce qui vous a le plus frappé ?
Moi, je pense qu'il m'a le plus frappé, c'est le rapport avec les élèves, déjà, aussi.
C'est-à-dire entre eux ?
En fait, on avait à peu près tous le même parcours et on se comprenait pas mal, je trouve. Et enfin, tous, voilà. Et du coup, ben, je trouve qu'il y avait vachement d'échanges. Et différemment, justement, au collège, lycée, où du coup, c'est un peu... la guerre, c'est un peu comme une prison, c'est-à-dire on doit trouver sa place, nanana. Là c'était pas du tout la même chose, c'est-à-dire qu'on s'aide tous et quand quelqu'un a un problème on essaie de comprendre pourquoi il en a un et même chose pour les formateurs qu'on a, moi j'ai jamais eu un seul formateur ou quelqu'un qui m'a dit une remarque, c'est-à-dire que au collège par exemple ça va être sous forme de mais que vas-tu faire plus tard, alors que ici par exemple on va essayer de trouver le problème de pourquoi est-ce que là maintenant ça va pas et pourquoi est-ce que là tu peux pas le faire ou pourquoi, et du coup en fait comme il y a plus d'écoute, ben en même temps on a envie de plus parler, je pense, et on se livre beaucoup plus.
Alors si on avance, puisqu'on a fait dans ce sens là allez on continue avec vous Mathilde, donc vous ça fait sauf faire de ma part, faut que j'arrive à remettre ma main sur les papiers, mais vous allez m'aider, vous êtes arrivée à l'école il y a combien de temps déjà?
Moi je suis arrivée en octobre, donc...
Bref, en tout cas vous êtes en cours, alors qu'est-ce que, par exemple si on commence par les savoirs fondamentaux, ce qu'on entend c'est qu'en fait il y a peut-être plus de souplesse pédagogique en fait dans ces établissements, c'est-à-dire que vous avez quoi, rattrapé un peu de retard sur les matières fondamentales, trouvé une autre manière d'étudier qui vous correspond mieux, comment ça s'est passé sur ce sujet-là pour commencer ?
Oui, déjà bah, j'ai beaucoup plus de curiosité pour apprendre déjà, parce que du coup bah, on est en petit groupe, il y a plus de...
Petit groupe ça veut dire combien ?
Oh allez, on est 5-6 par atelier souvent, voilà c'est y a vachement le temps de comprendre, on peut nous réexpliquer tout ça.
Donc c'est surtout le fait d'être en petit groupe, c'est pas des méthodes pédagogiques un peu différentes.
Il y a aussi ça, il y a aussi le fait que, bah, je pense aussi que ça va avec le fait qu'on soit en petit groupe parce que du coup ils ont plus le temps de nous apprendre. Donc voilà. Ouais.
Donc vous avez l'impression d'avoir un peu entre guillemets rattrapé le retard ou enfin et puis je sais pas pour l'estime de soi, j'imagine que.
Je pense que ouais c'est surtout ouais sur l'estime de soi et aussi sur se dire que avant je pensais pas que j'étais capable de revenir dans une voie classique ou j'étais capable de faire quelque chose. Et maintenant, en fait, j'évite de me dénigrer. Je me dis, ouais, faut faire des choses, parce que sinon, je vais m'enfoncer, quoi. Donc,
On vous fixe des objectifs, c'est-à-dire on vous dit, t'as 17 ans, il faut qu'à la fin de l'année, t'aies rattrapé tes 2 ans de retard, ou c'est pas du tout
c'est pas la mentalité. Non, c'est pas comme ça que c'est dit, mais en fait, on nous pousse à quand même... je sais pas comment expliquer...
À progresser.
Ouais, c'est ça, mais de façon.
Marc Martin.
Est-ce que vous pouvez, par exemple, parler des projets que vous avez fait avec l'école ?
Par exemple, on a participé à un projet éloquence avec Romain. Et ça, c'était très valorisant.
Éloquence, c'est quoi ? Parce qu'on pense parfois aux élèves qui sont en école d'avocat.
Ouais. C'est un peu. En fait, c'est de prendre un sujet qui nous tient à cœur et de faire de l'éloquence avec, c'est-à-dire d'écrire un texte et de le dire devant un public, etc. Donc voilà.
Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a donc les savoirs fondamentaux et puis il y a plein de projets connexes, c'est ça, pour essayer de.
Voilà, il y a
quand je les ai eus la semaine dernière au téléphone, au début de semaine, ils étaient aussi en sortie canoë. Sortie canoë au collège, je ne sais pas si on a, il y en a souvent.
Voilà, on crée des conditions. Je pense qu'on n'apprend jamais rien à personne, mais on crée les conditions de l'apprentissage. Et donc là, avec le concours d'éloquence, par exemple, c'était créer les conditions. Imaginez, nous sommes persuadés pour travailler dans une école de la deuxième chance, il faut être persuadé qu'ils sont tous capables. Donc ça, c'est acquis, ils sont capables. Et on va juste créer des conditions pour qu'ils puissent se le démontrer à eux-mêmes. Et donc, on les incite, on ne leur donne pas d'objectif, mais on les incite à se mettre un tout petit peu en risque. C'est peut-être stressant, en gros, d'éloquence. Mais on réassure en permanence, on a une approche très bienveillante, enfin, je parle sous le contrôle des élèves, pour qu'ils puissent y aller en toute sécurité et pas se mettre en danger. Se prendre un peu de risque, c'est important, mais tout en bordant les choses.
Alors vous, si on finit par vous, Mathilde, enfin fini façon de parler, donc vous en êtes envisagé donc de reprendre des études.
Ouais.
Vous avez fait un stage donc dans le milieu du cinéma et ces études que vous voudriez reprendre, vous pouvez nous dire ce que c'est et puis comment ça vous est venu un petit peu au long de ce temps que vous avez passé à l'école. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'école déjà ?
Là, ça fait 8 mois.
D'accord. Alors comment, qu'est-ce que vous voulez faire et comment ça vous est venu ?
Ben moi, du coup, j'aimerais me lancer dans le domaine de l'illustration. Voilà. Ça, mais en fait, ça a toujours été un rêve depuis que je suis petite. Et là, en fait, je me suis dit que c'était peut-être possible en revenant à l'école, justement. Voilà. Donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une possibilité. Et donc, je vais foncer dedans.
Romain, même question. Qu'est-ce que vous avez, on va dire, appris, surtout, vous avez l'impression ? Et puis, où est-ce que vous en êtes un peu de votre raccrochage scolaire, si on a utilisé ce mot ?
Ben, du coup, personnellement, quand je suis arrivé à l'école, j'étais assez perdu concernant mon avenir, dans le sens où... je savais pas trop ce que j'allais faire plus tard dans ma vie. Et au final, au fur et à mesure des mois et de l'accompagnement que j'ai pu recevoir à l'école, je me suis rendu compte que le métier du droit m'intéressait beaucoup. Et puis j'ai également participé à ce concours d'éloquence du coup organisé par l'école, ce qui a pu me faire réaliser que oui, effectivement, le droit, c'était quelque chose que j'aimais bien, vu que c'est en rapport forcément. Et du coup, ben, à l'heure actuelle, j'envisage de reprendre mes études. En passant un diplôme qui s'appelle le diplôme d'accès aux études supérieures, aux études universitaires. C'est un équivalent du bac mon souhait, ce serait de passer ce diplôme-là pour ensuite partir effectuer des études universitaires de droit.
Marc Martin, c'est quoi un peu la recette ? On entend que il y a un accompagnement individualisé, enfin personnalisé plutôt, ce sont des petits effectifs. Ça suffit en fait pour être à la solution miracle à l'école. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme principe qui préside à ces
d'habitude on est un peu plus nombreux, mais on est en période Covid, donc on a réduit les tailles des jauges, donc on est plutôt à une dizaine en atelier. Alors la recette, je sais pas, c'est...
Il y a des grands principes qui président un peu à ces écoles, une espèce de, je sais pas, de charte ou de principe éducatif.
Oui, il y a une charte des principes fondamentaux qui reprend d'ailleurs les attendus du livre blanc d'Edith Cresson. Mais au-delà de ça, je crois que c'est aussi une posture professionnelle chez les professionnels qui travaillent au sein de l'école. Je l'ai dit, hein, c'est de persuader qu'ils vont tous réussir, c'est leur apporter toutes les conditions pour réussir, leur faire bénéficier de tous les réseaux dont on dispose, réseaux d'entreprises, réseaux de partenaires. Sur le concours d'éloquence, c'est faire un mariage avec des étudiants du Collège supérieur de droit qui les ont accompagnés dans le projet, donc c'est aussi développer des logiques de fraternité et de solidarité. Et puis c'est aussi beaucoup les respecter, et je dirais même les aimer, pour permettre à chacun de se sentir aimable, et leur donner toute... et de faire en sorte qu'ils puissent, que la douleur ou la souffrance qu'ils ont pu subir dans le cadre scolaire devienne leur force.
Alors vous me disiez, en fait, ils viennent souvent avec un désir fort de vengeance, c'est ça la guerre de l'épaule, et il faut transformer l'essai.
Oui, souvent, bah, quand on a mal vécu l'école pour les plus jeunes, souvent quand ils viennent à l'école, il y a de la souffrance, et donc il peut y avoir de la vengeance. Et nous, l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'ils prennent leur revanche, et qu'ils réussissent, et qu'ils montrent au monde entier, et leurs anciens enseignants, et surtout à eux-mêmes, qu'ils sont capables du meilleur.
Avant qu'on fasse une deuxième pause, c'est vrai qu'il vient une question quand même à vous entendre. Quand vous dites que c'est surtout croire en eux, on se dit, en fait, autant de difficultés, ne serait-ce que par ces deux illustrations, dans un système éducatif classique, juste parce qu'on ne sait pas forcément faire du personnalisé, qu'on ne prend pas le temps d'écouter les élèves, qu'on ne croit pas vraiment en eux, ça fait quand même une addition salée pour le système éducatif classique, ça c'est... Quel est votre regard un peu sur le système éducatif classique ? Vous avez l'impression, vu de l'extérieur, vous qui vivez une autre aventure, qu'il manque quoi surtout ? Qui expliquerait
le système éducatif classique fonctionne très bien pour des personnes qui n'ont pas d'histoire, enfin, au sens qui n'ont pas de problème. Dès qu'on a des difficultés, il y a des problèmes de prise en charge par rapport à des profils d'apprentissage, on l'a évoqué, par rapport des handicaps de type 10, lexie, calcul, etc. Et puis après, il y a aussi le fait que le système scolaire ne sait pas individualiser. C'est une machine qui sait gérer des cohortes, mais ne sait pas gérer ses marges.
Allez, on fait une deuxième pause et on va vous retrouver pour finir cette émission et donner envie peut-être à d'autres de vous rejoindre, pourquoi pas même à des particuliers ou des entreprises, puisque j'ai cru comprendre en me baladant sur l'un de vos sites que tout le monde pouvait mettre la main à la pâte d'une manière ou d'une autre.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Que sont les écoles de la deuxième chance? C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce vendredi matin. Comme souvent à l'occasion du vendredi, on parle à la découverte de belles réalités ou de belles personnalités. Ce matin, c'est une réalité, ce sont ces écoles. Avec nous autour du plateau, pour ceux qui nous rejoindraient, Marc Martin, qui est directeur de l'école de la deuxième chance de Toulouse, Romain et Mathilde, qui sont tous les deux élèves. À la fin de cette émission, allez, en vrac, deux, trois questions quand même que je ne vous ai pas posées, puis après, on va essayer de convaincre certains de vous rejoindre, soit pour bénévolat, partenariat, ou des parents qui auraient des enfants ou qui connaîtraient des parents qui ont des enfants en difficulté, ou des jeunes, pardon. Marc Martin, est-ce que ça coûte une fortune à l'État français que d'avoir ces écoles de la deuxième chance où on est tant aux petits oignons, on va dire, avec les élèves?
Le prix d'un élève à l'école de Toulouse est équivalent à celui d'un lycéen. Vous conviendrez avec moi que pour le même prix, l'éducation nationale a connu 100% d'échecs. On est à 70% de réussite. Donc voilà. Et le prix, c'est à peu près 10 000 euros. faut mettre ça en regard à une étude de la DGESCO, la Direction des statistiques de l'éducation nationale, qui en 2017 avait identifié que le coût d'un décrocheur, c'était 230 000 euros.
Donc, pourquoi ? Parce qu'à cause des, on va dire, des problèmes collatéraux, c'est-à-dire...
À cause des problèmes collatéraux, problèmes de santé, tous ces jeunes ne vont pas cotiser pour ma retraite, ni la vôtre, ne vont pas cotiser pour le chômage, ne vont pas cotiser pour l'assurance maladie, etc. Donc c'est du manque à gagner, ils ne vont pas consommer, voilà, donc c'est un coût social énorme. Donc,
alors 10 000 euros, entre guillemets, pourquoi ça ne coûte pas plus cher, étant donné qu'il y a plus d'intervenants pour, dans, on va dire, le ratio élève-professeur ne doit pas être le même quand même, c'est...
Non, bah, écoutez, je ne connais pas l'écosystème d'éducation nationale, pourquoi ça coûte 10 000 euros par jeune. En tout cas, pour nous, on est sur ce prix-là, hors investissement. Je parle uniquement sur le coût de fonctionnement.
Vous l'avez dit au début de l'émission, mais en cette fin d'émission, je pense que c'est important de le redire. On trouve donc comme chiffre, alors c'est un peu plus élevé, semble-t-il, pour votre école, mais donc il y a le taux de sortie, entre guillemets, est donc de 60%. Alors si on commence déjà par ceux qui ne vont pas jusqu'au bout, pourquoi en fait ? Parce que chaque élève doit le vouloir, c'est ça ? Il n'y a rien d'obligé ? Il y a une période un peu d'essai ?
Oui, il y a une période d'essai au cours de laquelle nous perdons environ 15% des élèves parce qu'on ne s'est pas rencontrés, parce qu'ils sont venus peut-être pour de mauvaises raisons à l'école ou parce qu'on n'a pas pu déceler les difficultés qu'ils avaient pour essayer de trouver des solutions. Et puis pour le reste, oui, ce que je leur dis en permanence, je leur dis deux choses importantes. Le contrat d'engagement qu'on signe, vous ne le signez pas avec moi, vous le signez avec votre avenir. Donc tout va dépendre de vous. Nous, on va être juste là pour faciliter les choses. On est un peu leur sherpa, on les amène à grimper tout en haut du col. On porte leur sac à dos, on leur évite d'aller dans de mauvaises directions, mais c'est eux qui font tout le travail.
Après, il y en a quoi ? Il y en a 15% qui décrochent au fur et à mesure en fait, de la formation, c'est ça ? Vous disiez 15%
qu'on perd au début. 15% qui décrochent au début, et après, sur les autres, oui, ils ne vont pas jusqu'au bout, ils abandonnent parce qu'ils ont des difficultés ou parce que ça ne s'est pas fait. Voilà. On ne fait pas de miracle non plus, on en fait quelques-uns, mais pas pour tous, on ne peut pas résoudre toutes les difficultés.
En tout cas, dans les 60%, on trouve donc 20% de CDI, 25% de formation qualifiante, enfin ils réintègrent une formation qualifiante, 15% de contrat professionnalisant ou d'apprentissage et 3% d'emploi aidé. Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre ? Il faut dire que ces écoles de la seconde chance, en fait, ce sont quoi ? Des associations, c'est ça, la plupart du temps ?
Oui, c'est porté la plupart du temps par des associations de loi 1901, qui sont financées par les régions, qui sont financées par l'État, qui sont financées par les fonds européens, par d'autres collectivités territoriales, mais également par les entreprises via la taxe d'apprentissage ou par des fondations. Pour nous rejoindre, il faut avoir envie. Donc, à l'école de la seconde chance de Toulouse, le process, c'est participer à une réunion d'information, rencontrer un formateur, et il n'y a pas de sélection à l'entrée, ou une sélection, on va prioriser l'entrée pour celles et ceux qui ont le plus besoin.
Alors là, vous parlez des élèves, moi je parlais en fait peut-être des entreprises, des gens qui voudraient venir pour donner un coup de main, faire du bénévolat, si ça existe.
Alors les entreprises, on en a besoin en permanence, 700 stages faits chaque année par nos élèves. Les entreprises interviennent aussi au sein de l'école pour animer des simulations d'entretien pour les jeunes qui préparent des entrées en emploi ou en formation. Nous accueillent dans le cadre d'enquête métier, et on a aussi un réseau de bénévolat qui peut nous soutenir pour faire de l'accompagnement individualisé pour certains jeunes, pour faire des cours de conversation pour des jeunes qui sont français langue étrangère, lequel le français n'est pas leur langue maternelle, pour préparer les jeunes à une reprise d'études ou préparer un diplôme en candidat libre.
Romain et Mathilde, si on finit l'émission avec vous, allez cette fois honneur aux dames, Mathilde, pour les parents qui aurait un peu de mal, qui aurait des jeunes qui seraient concernés ou qui connaîtraient des jeunes qui sont concernés, bref, qui tiqueraient un peu, parce que voilà, en France, on est peut-être comme ça. École de la deuxième chance, ça fait peut-être pas assez valorisant pour beaucoup de parents. Qu'est-ce que vous diriez aller aux parents pour les convaincre de pousser leurs jeunes à se tourner vers ce type d'école ?
Je pense que pour une personne en décrochage scolaire, le système classique a dû le casser. L'école deuxième chance, elle commence par nous réparer. Et après,
à vous réparer.
Allez-y, désolé, Romain. Je me permets de t'interrompre, Mathilde. Mais l'école de la deuxième chance nous permet de nous réparer, pour reprendre ton expression. Et ça nous remet sur le droit chemin pour qu'ensuite on puisse réussir nos rêves et aller de l'avant dans nos vies. Donc si je peux me permettre de donner un conseil.
Juste, vos parents, comment ils ont réagi ? Est-ce que c'est aussi vos parents qui vous ont poussé ou quel regard ils portent sur cette école aujourd'hui ?
Alors, en l'occurrence, ma mère, elle a été très, très attristée de par mon décrochage. Et encore une fois, elle me comprenait pas forcément. Elle a essayé de m'aider sans trop y arriver. Et au final, quand je me suis retrouvé dans cette école, de suite, elle a pu reprendre confiance en moi et recroire en ma personne. Et elle a pu comprendre que j'avais encore de quoi faire et que je pouvais avoir un bel avenir.
Et alors à des jeunes qui seraient concernés, qu'est-ce que vous leur diriez? Est-ce qu'on peut aussi avoir quelques réserves à pousser sous la porte de ce type d'établissement?
Bien sûr. Moi, le premier, quand j'ai la première fois, la toute première fois, quand j'ai entendu l'appellation école de deuxième chance, je me suis posé des questions, forcément, pour savoir un peu. Je me posais la question de savoir ce qu'il y avait derrière cette appellation, et j'avais peut-être quelques réticences. Et au final, ce sont des gens vraiment géniaux. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas mieux pour quelqu'un qui décroche scolairement que cet établissement-là, vu que ça nous aide, les gens là-bas nous écoutent et c'est franchement rare. Donc,
Mathilde, ça vous est venu? Qu'est-ce que vous vouliez dire peut-être en plus donc pour convaincre et les parents et les élèves qui auraient du mal à franchir le pas?
Je pense que je reviens sur ce que tu disais, Romain. Souvent, les parents en fait comprennent pas trop et du coup, ils dirigent leurs enfants vers des trucs qui sont pas forcément adaptés. Et ce qui est cool avec l'école Deuxième Chance, c'est que vraiment on est tous écoutés, tout type de parcours y est, donc c'est pas forcément aussi du décrochage, ça je voudrais venir, il y a aussi des gens qui ont des parcours très variés, et c'est aussi ça en fait qui fait que c'est très différent, c'est-à-dire que moi par exemple j'ai été en ITEP, c'est un truc qui était fait pour des gens qui avaient décroché, mais qui avaient des problèmes, et donc je me retrouvais dans un milieu qui n'était pas fait pour moi, là je me retrouve avec des gens qui certes ont décroché mais pas que, et du coup qui me montrent une autre vision. Et donc, je n'ai pas cette image de « je suis décrocheur, je suis différent des autres », parce que je me dis juste « je vais avancer ». Et c'est ça, en fait, c'est le moyen d'avancer. On ne se dit pas...
C'est moins stigmatisant.
C'est ça, c'est moins stigmatisant, largement.
Et aussi, si je peux me permettre, on apprend énormément, parce que, comme tu l'as dit, il y a plein de... Tous les élèves ont des parcours de vie différents, mais qui sont tous riches. Et justement, ça permet d'avoir des expériences qui sont incroyables en apprenant à les découvrir et autres. On en ressort vraiment grandi.
Dernière question, Marc Martin, j'ai cru comprendre que parfois il y avait un suivi en fait, post-école, c'est ça? Pendant 12 mois, vous continuez un petit peu à suivre les élèves?
Écoutez, récemment, j'étais sollicité par une élève qui est partie en 2012, donc on n'a pas vraiment de durée limite pour faire le suivi. On est présent, on fait partie, je crois, on essaie de faire partie de leur vie, en tout cas d'être mobilisable en tant que besoin. Ils peuvent nous solliciter pour des questions d'emploi, pour des questions de résolution de problématiques, quelles qu'elles soient. On est toujours présent pour eux s'ils nous le demandent.
Eh ben, il faudrait faire des cabinets d'outplacement aussi qui ressemblent à ces écoles de la deuxième chance. Avec une telle fidélité, le marché de l'emploi serait assez différent. Bref, c'est pas le sujet, mais ça peut peut-être élargir un autre sujet. Merci beaucoup. Quelques informations pratiques à la fin de cette émission. Si vous êtes sur Toulouse, eh ben, tout simplement, vous tapez école de la deuxième chance et vous tomberez sur cette école toulousaine en rajoutant Toulouse. Et sinon, sachez qu'il y a un réseau E2C. E2C, vous trouverez les écoles en Occitanie et au-delà. Un grand merci à vous. À la technique, Christophe Aubry, vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.